Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, l'Ordre National des Experts Comptables d'Île-de-France. Un grand merci à eux. Heureusement que notre chauffeur de salle préféré a rejoint le plateau, Malek.
Salut à tous.
Salut Malek, tu es conseiller en communication politique.
Oui, plus pour très longtemps, mais encore.
Quelle drôle d'idée. Tu es host and producer du podcast Autour de moi.
Exactement, le podcast où on demande à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux.
Ça marche?
Ça marche très bien, des épisodes disponibles sur
YouTube.
Ça marche
parce qu'ils arrivent à parler des autres.
Et ils arrivent. J'ai réussi à faire parler François Hollande de sa maman, qu'il ne fait jamais, donc je peux tout faire. Le dernier épisode avec Malik Bentala, interview exclusive à écouter et à regarder sur YouTube et toutes les plateformes de podcast.
Prochain invité, t'as le droit de spoiler ou pas?
J'ai pas le droit de spoiler, mais alors il va en avoir pour tous les goûts. Pour des fans d'art contemporain, il y aura des choses. Pour des fans de sport, il y aura des choses. Pour des fans de sport de combat notamment.
Et de sport d'art contemporain?
Alors ça, il va falloir que je brainstorm dessus.
Okay, non,
mais je suis content de vous retrouver.
Purée, moi aussi, très contente. Génial, merci d'être là, Malek. Deuxième super chroniqueuse de la soirée, Latifa. Bonsoir, Latifa.
Bonsoir tout le monde.
Ravie de te retrouver aussi. C'est la première fois qu'on est en plateau ensemble.
Oui.
Donc c'est cool. Ravie de te rencontrer en chair et en os. Latifa, tu es présidente du mouvement.
Oui.
Tu peux nous en parler un peu, s'il
te
plaît?
Oui, le mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Donc, on fait principalement des pétitions, mais aussi des outils de mobilisation en ligne sur différentes thématiques, mais principalement sociales, écolo, féministes, antiracistes.
Super. Bah merci d'être là pour parler actu politique. Et Dieu sait que ça va bien nous occuper. Ouais. Et enfin, dernier chroniqueur que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir, Émilien Ouarvial. Bonjour, Émilien.
Bonjour.
Tu remplaces Usul au pied levé, comme on dit, au déboté. J'ai jamais compris cette expression, mais tout le monde l'emploie, donc je vais l'employer et faire comme si je savais ce que ça voulait dire. Merci d'être là, donc c'est cool.
Merci à toi.
Usul est malade, donc voilà, on pense à Usul. Je sais pas si au moins il est là pour nous faire un petit coucou dans le chat, mais quoi qu'il en soit, on espère qu'il va se remettre. Et cool, Émilien, donc toi, tu es chercheur. Ton kink, c'est les droites, la droite?
La droite.
La droite, avec un grand L.
Éric Ciotti, belle chevelure.
Waouh.
Oh, la chance. Mais c'est cool, du coup, tu passes ta journée à voir ce qu'ils racontent, analyser.
Ouais, suivre tout, leurs tweets, les tweets d'Éric Ciotti sur, je sais pas, la petite équipe locale de Nice. Voilà, c'est génial.
Quoi. C'est riche d'enseignements, j'imagine.
En ce moment, oui.
Et puis, tu t'ennuies pas?
Non.
Très bien. Bah, je vais commencer par une petite question. Tiens, on a parlé d'IVG dans la Constitution. Et moi, j'aime bien faire de la politique fiction. Je ne suis pas complotiste, mais je me demande s'il n'y avait pas un petit complot quand même derrière tout ça. Est-ce que Macron, il ne serait pas en train de nous faire une 2018, dans le sens où en 2018, il y avait une réforme constitutionnelle qui devait aboutir. Et puis là, badaboum, le Sénat a refusé. Et puis Macron, il a dit, bah non, le Sénat, il ne veut pas, donc il n'y aura pas de réforme constitutionnelle. Est-ce que là, finalement, ce ne serait pas un bon moyen de se planquer derrière les sénatoristes, que ça arrange hein, par ailleurs, et de se dire, finalement, c'est le Sénat qui ne veut pas, comme d'hab, donc il n'y aura pas de réforme constite. Tu penses qu'il y a peut-être un truc comme ça qui peut se tramer ou pas?
Je pense que c'est compliqué parce que ça impliquerait qu'il y ait au Sénat des groupes bien unis qui puissent faire ce genre de négociations. Et je crois que les Républicains ne sont pas tellement en état. À l'Assemblée, ils ont été 2/3 à voter pour et le reste, une grosse gros contre et un peu d'abstention. On sait qu'au Sénat, ils sont plus vieux, plus conservateurs, tout ça. Mais a priori, il n'y aura pas de bloc quoi, pour ça. Donc ça risque d'être un peu compliqué de juste dire c'est la faute au Sénat parce que cette fois-ci, tous les partis ont l'air de s'être un peu engagés dans l'affaire. Donc, et en plus, lui-même, je veux dire, à un moment donné, on peut esquiver tous les sujets, on peut assumer, mais à un moment donné, on lui demandera bien de faire quelque chose, un référendum, et je ne sais pas s'il pourra très longtemps esquiver sa responsabilité.
Ouais, c'est clair. On parlait, Sarah parlait tout à l'heure des débats qu'elle a entendus, notamment des prises de position, des prises de parole de la part des députés LR. Et elle disait à quel point elle était choquée de voir ces prises de position et de voir le recul un peu dans cette vision des choses et aussi un côté un peu réactionnaire, levé de bouclier. Chez LR, c'est quelque chose que tu constates aussi?
En fait, ils ont deux. Je pense qu'il y a deux motivations chez les gens qui s'opposent. Il y a ceux qui sont vraiment personnellement conservateurs, souvent des gens assez croyants. On se souvient de François Fillon qui avait dit que, à titre personnel, c'était pas son truc, mais bon, que, évidemment, il remettrait pas en cause, etc. Ça existe, après tout, c'est que, on a l'impression que c'est quelque chose de consensuel, mais en tout cas, les grandes institutions religieuses sont toujours restées sur la même opinion. Et puis après, il y a ceux qui ne veulent pas se faire imposer le narratif, comme on dit, par la gauche. En fait, quelque part, beaucoup, ils s'en foutent de l'IVG. C'est malheureux, mais ils s'en foutent. Par contre, le fait qu'on leur impose une loi de gauche, que
une date, un congrès,
les gros titres, que ça ait l'air d'une victoire pour des groupes auxquels ils ne sont pas affiliés. C'est pour ça qu'ils pinaillent quelque part. C'est pour ça qu'ils ont refusé en 2018. C'est pour ne pas accorder symboliquement le truc à la gauche. Le problème, c'est que c'est coûteux quand même. À un moment donné, le truc est suffisamment politisé, ils apparaîtront comme des gens qui refusent l'inscription du jugement à la Constitution, qui est, comme ça a été dit précédemment, quelque chose de très, très majoritairement demandé. Et donc, à un moment donné, le jeu, ils peuvent le jouer un petit peu, mais ça peut leur coûter cher s'ils poussent trop.
Latifa, Malek, vous voulez réagir sur l'IVG dans la Constitution? Vous avez des choses à nous dire, à partager peut-être des informations qu'on n'aurait pas?
Non, pas spécialement à partager d'informations, mais pour rebondir sur ce que disait Emilien, s'ils ne voulaient pas se faire imposer quelque chose par la gauche, ils avaient qu'à le poser eux-mêmes. On rappelle que c'est Simone Veil qui a fait un gros geste. Et à quelle famille politique elle appartenait.
Oui, c'est vrai.
Wow, c'est dur de s'exprimer un jeudi soir.
J'avais oublié. Ça fait longtemps, faut dire.
donc il n'avait qu'à se bouger avant. Et puis, en tout cas, voilà, je suis d'accord. Macron, on l'a vu se défausser par le passé. Plus compliqué de se défausser cette fois-ci et on a hâte de voir.
Tu penses toi aussi, Latifa, que là, il est pieds et poings liés. J'emploie plein d'expressions que je ne maîtrise pas du tout ce soir. C'est drôle.
Moi, j'ai pas trop de résolution, mais je me suis dit que j'avais envie d'être optimiste sur cette question.
Ah, mais c'est bien ça pour 2024.
Non, ça va passer, donc je me mets dans le.
Mood. Okay. Ouais, je pense que ça plaira à Sarah et Floriane.
Non, mais ouais, il faut quoi. Même si, j'ai été un peu surprise de. Enfin, surprise, non, mais bon, ouais, quand j'ai vu Larcher et les autres déclarations très. Conservatrices, on va dire, je me suis dit, ah tiens, du coup, c'est vraiment encore plus nécessaire de le faire.
C'est clair. En parlant de conservatisme, j'ai envie de dire, on a un nouveau gouvernement. Et puis on a eu... tu savais pas. Enfin, il n'est pas tout à fait terminé. Oui. Il est partiel. Il est...
On a un petit morceau, quoi.
Ouais, on a le cœur du gouvernement.
Il y a du renouveau. Tu m'annonces de la modernité, de la fraîcheur.
Mais bien sûr, tu penses bien, Malek. Déjà, c'est un... Le plus jeune Premier ministre
de la 5e République.
Je te jure.
Waouh.
Et ça, c'est cool.
Je suis
Bah ouais.
Je suis trop content. Je le connais en plus. Donc je suis content, oui et non.
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 Oui, non, peut-être.
Non.
On va en parler. Mais on va aussi parler de son discours de politique générale. Mais on va revenir un peu en arrière parce qu'il s'en est passé des choses au mois de janvier. Ouais. Donc on va pas vous faire la chronologie totale, mais quand même. Donc, démission d'Elisabeth Borne. Patatras. Ça tombe le 8 janvier. Bam. On n'a pas eu le temps de se remettre des fêtes que déjà. Ils nous mettent ça dans la gueule. 9 janvier, donc, nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Et lui, qui a mis 2 jours à nommer le cœur du réacteur de son gouvernement nucléaire. Je continue dans les expressions de merde ce soir, vous y avez droit. Bien entendu, ensuite, parce qu'il fallait quand même le faire, le président de la République a fait cette énorme conférence de presse. Mais longue, mais j'en pouvais plus, moi. 2h15. Sur une très grande table. Et puis un peu en hauteur. La CNO était intéressante. Je pense que ça mériterait quand même de l'analyser. Donc, 2h15 de. C'était le 16 janvier. 2h15 de conférence de presse. Pour la petite anecdote, moi, j'étais en plateau donc j'étais obligée de la regarder pendant 2h15. Je me la suis fadée en intégralité. Et donc, du coup, avec les journalistes qui étaient aussi en plateau, on allait chercher les plus longues conférences de presse de l'histoire de la politique mondiale. Eh bien, figurez-vous que il est pas loin de battre le record. Il est un peu loin de battre le record, mais il a fait un quart de ce qu'a fait Hugo Chavez, qui a quand même tenu 8 heures.
J'allais dire Fidel Castro, mais ouais, c'est
alors,
la même...
Il y a eu Castro, effectivement, à l'ONU, je crois.
C'était le plus
gros discours, truc de ouf. 3 heures et quelques, et puis 8 heures, Chavez, en conférence de presse. Donc bon, Macron, bref, on t'attend. Tu peux pas test, en somme. Bref, plein de choses annoncées. Tu parlais de fraîcheur, de renouveau. On a vu à ce moment-là que... Et d'ailleurs, c'était quand même chelou. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de voir tous les ministres qui étaient là, allez, en randonnion. Je prends encore une expression chelou. devant le président de la République et qui acquiesçait. Il était là. Donc, à l'éducation, vous allez faire ça. Oui, oui, oui. L'environnement, vous allez faire ça. Oui, 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 oui. Et en fait... Il a un peu coupé l'herbe sous le pied d'Attal pour le discours de politique générale, Latifa.
Ah oui, ouais, moi aussi, je l'ai ressenti comme ça. Du coup, j'ai regardé les 2h15 alors que j'étais chez moi.
Ah ouais?
Que je n'avais aucune raison de le faire.
Mais tu faisais autre chose à côté quand même.
Mais j'ai regardé quand même. Ouais, 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 rapidement. Hein, mais oui. En fait, c'est ça, en fait, quoi, qui était très. Enfin, pas très étrange, mais c'est vrai que forcément, en plus, l'âge d'Attal joue là-dedans, en fait, dans on se dit, ah ouais, c'est son petit, quoi. Ben c'est oui. Vraiment son petit. Ah ouais,
Il est pas vieux.
Ouais, ouais, enfin. Après, ouais, c'est vraiment le. Ouais, ça a donné vraiment cette impression-là. Et en plus, c'était au moment de. Enfin, même si on y est encore, mais l'affaire avec la ministre de l'Éducation. Donc, j'ai entendu des réactions du président, etc. à ce moment-là.
Ouais,
ils étaient tous dans leur petit carré, là. Ouais. Et c'est vrai que ouais, ça donnait une impression très, très, très étrange en regardant. Et après, quand on regarde aussi dans le détail, de savoir que, voilà, autant le directeur de cabinet choisi pour Gabriel Attal, ça vient aussi de l'Élysée. Alors qu'il a bataillé, enfin après il a à moitié gagné pour avoir des gens avec qui il a travaillé depuis toujours. Et en fait, ouais, quand on regarde aussi les coulisses, ça a donné c'était fidèle à ce qu'on voyait pendant la conférence de presse où c'est vraiment lui le chef.
Ouais, ça, c'est un peu le message hein, qui a été donné. Donc ça, c'était plus sur la forme et sur la stratégie en quelque sorte et les relations au sein de l'exécutif, rappeler effectivement qui est le chef sur le fond. De cette conférence de presse, il y a un tas d'annonces qui ont été faites dans plein de domaines. Malek, tu veux revenir un peu dessus ?
Avec des ministres. Alors, les ministres qui acquiesçaient, alors je vais être très honnête, François Hollande en réalité avait fait la même chose pendant ses conférences de presse qui, elles, étaient l'après-midi, où on avait Emmanuel Macron d'ailleurs, ministre de l'Éducation à l'époque. De l'Éducation, non, pas du tout, de l'économie, Dieu merci. Faisait partie de ces personnes qui acquiesçaient sur le côté.
Avant même le discours de politique générale du Premier ministre ?
Ah, justement, non. C'est la première fois qu'un président s'exprime avant une déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est pour ça que je dis que la conférence de presse d'Emmanuel Macron était en réalité une déclaration de politique générale partie 1 et qu'on a eu la partie 2 à l'Assemblée après. Petite aparté pour dire qu'il faudra se poser la question de cet exercice de la conférence de presse. Moi, je milite pour des conférences de presse plus régulières du président de la République, qui est en réalité un mec un peu inaccessible pour les journalistes parce que les questions sont verrouillées, que les occasions de poser des questions sont très limitées. Donc, ce soit un exercice plus court, mais plus récurrent. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que j'ai surtout vu des ministres qui étaient en train d'apprendre pourquoi ils avaient été nommés en direct. Tu vois Amélie Oudéa-Castéra qui a appris en direct tout ce qui allait se passer sur l'éducation nationale, Rachida Dati, pareil. Et la posture très paternaliste de Macron avec Gabriel Attal, la nomination de Rachida Dati en fait partie. Quand on a appris un petit peu les coulisses de la nomination de Rachida Dati, on apprend qu'en réalité, ça s'est dealé dans les coulisses avec un émissaire envoyé par Emmanuel Macron, un de ses conseillers quelques jours avant, et que le jeudi soir de l'annonce du gouvernement... Le jeudi de l'annonce du gouvernement, Gabriel Attal l'a appris le jeudi matin. Le pauvre. Tu vois, rien d'étonnant. La nomination de Gabriel Attal, c'est pour faire du 2017. C'est pour avoir une nouvelle tête pour pouvoir exécuter le en même temps d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait un petit peu du plomb dans l'aile. Mm-hmm. Mais je rappelle que le en même temps n'existe pas. Je connais le en même temps de droite et en même temps de droite, ce que fait Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on nous a vendu pendant la conférence de presse ? L'expérimentation de la tenue unique pour lutter contre les inégalités à l'école.
Oui.
Voilà.
Voilà. Et puis d'autres trucs. Attends, mais t'as oublié le réarmement démographique.
Faites des gosses, putain.
Ouais, c'est un grand moment, ça aussi. Toujours sur le fond, Émilien, toi, cette conférence de presse, quand tu analyses les termes, notamment, qui étaient employés, un peu toute la terminologie employée par le président de la République, est-ce qu'on peut dire, toi qui es un spécialiste de la droite, je le rappelle, que est-ce que c'est clairement un gouvernement de droite ?
Je pense qu'on
un
peut
programme,
le dire, oui.
Un programme de droite.
Ce n'est pas parce que, en fait, Gabriel Attal a été président de l'UNEF, non, du PS, pardon, c'est pas pareil, du PS Sciences Po il y a 15 ans maintenant, que voilà, ça c'est enfin grandement équilibré. On a toujours Gérald Darmanin, on a toujours Bruno Le Maire, maintenant on a Rachida Dati, quelque Vautrin, part même Gabriel Attal qui a en fait été porte-parole, qui était comptable de toutes les politiques, qui était mise du budget à un moment donné, donc enfin des comptes publics ça s'appelait je crois à l'époque, mais donc qui finalement a tout validé. Donc il y a pas du tout de d'équilibrage. Bon, est-ce que Elisabeth Borne était un équilibrage en soi, je sais pas. Mais et en plus quand on écoute donc sur les termes et même en fait l'ambiance un peu générale du truc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les citoyens ils ont fait un peu n'importe quoi et il faut les recadrer. Donc par exemple les enfants ils regardent trop les écrans, donc faut arrêter ça. On sait pas trop comment, mais il faut arrêter ça. Faut recommencer à faire des enfants. On va mettre l'uniforme. Puis après, quand on écoute Gabriel Attal, la politique générale, il y a le côté où vous salissez, vous cassez. Bon, vous allez payer. Donc, il y a vraiment le côté, on va remettre de l'ordre, qui est quelque chose entre le côté très répressif puis le côté un peu paternaliste. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens quoi faire. Et,
une volonté, moi, j'ai remarqué de vraiment vouloir contrôler les corps, quoi.
Ah oui, et contrôler les gens. Il y a un côté, les universitaires parleraient plus, par exemple, d'un gouvernement pastoral ou de, il citerait Foucault, peut-être gouvernementalité de ça. En fait, l'idée que l'État, il va contrôler les populations comme si c'était un genre de stock un peu à bien gérer, à bien élever, et quelque chose qui, du coup, rompt quand même avec, un penchant très individualiste, développement personnel, qui était un peu le cas, qui était un peu là en 2017, là, c'est vraiment la société, elle doit marcher dans l'ordre, faut arrêter les conneries, donc, et le doigt sous la couture, et en fait, il veut faire un peu la société, ce qu'il fait avec son gouvernement.
Okay. Ouais, un DRH, clair. Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, hein.
Mais toi, Latifa, et aussi au regard du discours de politique générale de Gabriel Attal qui a été prononcé donc avant-hier à l'Assemblée nationale, est-ce que tu partages cette vision de cette volonté de contrôler, cette vision de vraiment genre imposer un peu une certaine forme d'autorité? Enfin, les termes ont quand même un sens. Hein. Le terme autorité a été employé à maintes reprises et par Macron et par Attal. Il y a eu aussi la question de la souveraineté qui était très présente, la question de l'identité qui était très présente. Pour toi, ça présage de quoi, tout ça?
Enfin, pas forcément de choses positives, mais aussi la question du travail. Notamment, il en a reparlé, de dire on ne doit pas avoir le droit à la paresse, ou d'exclure en fait toute discussion ou toute éclosion ou alors développement d'idées dans ce champ-là, en fait. C'est-à-dire que d'exclure la possibilité d'une autre société qui est possible ou de mode de fonctionnement qu'on ne connaît pas ou qu'on voudrait expérimenter et revenir vers quelque chose que l'on connaît, qui n'a pas forcément fait ses preuves, mais voilà, des très autoritaires, de très cadrés, etc. Parce que peut-être que ça rassure une partie de la population, parce que c'est ce qu'on connaît, mais ça manque cruellement d'ambition politique, ça manque de vision de la société,
de courage,
etc.
Même.
Oui, de courage complètement, mais de se dire, est-ce qu'on doit pas créer autre chose ou dans au moins certains domaines imaginer d'autres choses, construire d'autres imaginaires politiques ou de société pour les gens. Et un président élu qui est le plus jeune que certains avaient dit moderne, espoir pour certains, qui apportait de l'espoir pour certains, en fait on se rend compte que pour moi c'est, si on avait eu Fillon ça aurait été la même chose.
C'est ce que je voulais dire en réalité. Qui est le véritable président de la République? Quand on apprend que Gabriel Attal a rendu visite à Nicolas Sarkozy au mois de septembre et que Nicolas Sarkozy lui a conseillé... Alors, petite anecdote, Gabriel Attal y est allé avec un bulletin du général de Gaulle en présent, un bulletin mis sous verre, un petit cadeau qu'a apprécié Nicolas Sarkozy.
Trop cool le cadeau, quoi.
Petite anecdote. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy lui a conseillé de réfléchir plus grand que la mairie de Paris à avoir des ambitions nationales. On sait que la nomination de Gabriel Attal est au goût de Nicolas Sarkozy. On sait que Rachida Dati a appelé Nicolas Sarkozy avant d'accepter la nomination au ministère de la Culture. Et le tu casses, tu payes, la généralisation du SNU. Le tu casses, tu payes, ça me fait un peu penser à... Moi, je suis originaire d'Argenteuil. Quand j'avais 9 ans, j'ai vu Nicolas Sarkozy dire « Vous en avez marre de cette bande de racailles ? Eh ben, on va vous en débarrasser. » Eh ben, c'est vraiment... on est dans la même veine. Et donc, qui est le véritable président de la République ? Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy? Telle est la question.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une question pertinente. Il y en a qui disaient que c'était le premier ministre de Sarko. Enfin, comment tu passes d'être président du Parti Socialiste à Sciences Po à aller offrir des bulletins du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy? C'est trop chelou, quoi, quand même.
Bon, déjà, tu l'as dit, en Parti Socialiste à Sciences Po. Bon, déjà, c'est... Tu l'as.
Non, quand même, t'es sérieux?
Alors, parce qu'au sein du PS, j'avoue, on tire un petit peu sur la petite section de Sciences Po, j'avoue.
Je ne connais pas, mais
je n'en suis plus.
Mais c'est quand même assez surprenant. Après, plus sur vraiment la méthode, est-ce que, au-delà des annonces et du manque de vision de société, vraiment de projet de société, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, encore une fois, et d'ailleurs ça se répercute aussi sur la crise des agriculteurs, il y a toujours des annonces de mesures par-ci par-là, des mesurettes, mais jamais vraiment de vision structurelle, de propositions fortes, donc je suis tout à fait d'accord sur le point qu'il manque une vision. Il manque une vision sur le fond, c'est-à-dire quel est le projet, en somme. C'est notre projet, lequel, ok. On n'a toujours pas pigé. Mais aussi, c'est quoi la méthode ? Enfin, franchement, c'est quoi la méthode ? Comment vous allez gouverner, les gars ? Vous avez un président de la République qui coupe l'herbe sous le pied d'un ministre. Vous avez un ministre qui présente son discours de politique générale avec un gouvernement qui est incomplet, enfin, c'est quand même un peu bancal tout ça, non, Emilien ?
Mais en fait, on a l'impression que c'est juste la méthode Macron, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron
tout à l'avenant,
a envie de, je sais pas, de faire des choses, de faire des déclarations. Bon, bah, il le fait quelque part. Est-ce qu'ils ont le choix ? Le parti présidentiel est construit autour de Macron, donc il n'y a pas d'autonomie vraiment. Tous les gens qui sont là aujourd'hui doivent totalement leur carrière à Macron, surtout les jeunes, et là il a nommé quelqu'un pour le coup qui devait toute sa carrière
oui,
à Macron.
En plus il le dit, il l'assume, hein, Attal.
C'est pas deux ans dans le cabinet de Marisol Touraine qui vont avoir tous mes respects, mais fait grand chose pour ça. Donc oui, quelque part, non mais.
Parce que ça, je m'attendais pas à entendre ce nom déjà.
Non mais ça devait être bien.
Pour Marisol Touraine.
Non mais il paraît que c'était génial, mais quand même. Tout ça pour dire que il y a Macron qui décide des trucs, et c'est vrai que même dans les projets annoncés, il y a un an et demi, il y avait une campagne présidentielle avec normalement des propositions, et en fait on sent que ça revient,
il y a pas si longtemps,
et des fois il dit ah oui ça serait bien ça, il le sort et on le fait,
ouais,
et
c'est clair,
ouais, c'est un peu selon Macron, quoi.
Et moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est que j'avais l'impression, tant dans le discours de Macron que celui, c'était une conférence de presse, déguisée, en vrai. Mmh. C'était quand même un bon gros discours à la base, qui devait durer un quart d'heure, mais qui a finalement duré une heure. Je l'exagère, mais pas loin. Il y avait quand même, on passait d'un truc super général à des trucs super précis, genre blah, sans transition, voilà les constats, les trucs très globaux, généraux, et d'un seul coup, hop, des trucs très très précis.
Alors, premier deck dans les coulisses, sur l'écriture de ce discours qui n'était ni fait ni à faire, le conseiller discours historique d'Emmanuel Macron, apparemment, est revenu quelques jours avant la conférence de presse. Donc est-ce que c'était une bonne idée de le rappeler ? Bon bref, ça c'était aparté. Non, moi ce que je voulais surtout dire, c'était qu'on avait un gouvernement là bancal, mais en plus, un gouvernement qui n'est pas durable. Déjà, on a Amélie Oudéa-Castéra, je ne sais pas si elle passe la fin de l'année scolaire. Déjà, un. Et puis, de deux, on sait que tout le monde va se tirer dans les pattes dans quelques mois. Darmanin, il a dit qu'après les JO, lui, il te dit qu'il va penser à sa petite mairie, mais en réalité, il va surtout penser à 2027. Bruno Le Maire, à un moment, il va vouloir aussi peut-être décaler. Édouard Philippe va lui partir de son côté. Ça va peut-être pousser aussi Gabriel Attal à aussi pousser des coudes d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, gouvernement bancal, pas durable. Pourquoi faire incomplet, une vaste blague ?
Ouais, c'est clair. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas si vous avez vu ça comme ça, mais est-ce que d'après toi, Darmanin, il a grave le seum, Latifa ? Parce qu'il y a des gens qui disaient que potentiellement, il pouvait être Premier ministre, et puis finalement, il a pris un peu son alter ego de la jambe gauche, quoi qu'il en soit, soi-disant, du gouvernement.
Oui, en plus, il y avait tout un truc de peut-être Darmanin Premier ministre et Rachida Dati, elle voulait l'intérieur, parce que ça correspondait plus, de droite, etc. Il y a eu un truc. Je sais pas, j'ai l'impression que Darmanin, il a quand même ce truc, laissez-moi aller au bout, genre faire ce travail accompli, sur les JO, etc. Mm-hmm. Que finalement, j'ai pas l'impression, je suis en train de me dire, ça aurait été quoi le pire, tu vois, genre parce que Darmanin Premier ministre,
c'est clair,
ça aurait été. Je crois pas. J'ai pas l'impression que là, au stade où on en est du mandat de Macron, être Premier ministre aura une position enviable. Ça ne l'est jamais trop. Mais je sais pas si ce que disait Malek, en fait, tout est bancal, chacun cherche en fait à pense à l'après. Tout de suite être Premier ministre.
Alors que c'est censé être un peu un tremplin quand tu regardes l'histoire. Je veux dire, les premiers ministres se positionnent pour ensuite représenter le parti en place.
Tu vois, et ça ne réussit pas à tout le monde, quoi.
Et c'est pas le cas.
Darmanin, ça aurait pu faire une valse, quoi. pour le cramer complètement, plus que ça.
Ou alors peut-être que c'est ce qui va se passer avec Attal, qui lui aussi a des ambitions présidentielles. Ouais. Il ne les a jamais vraiment cachées, on est d'accord.
Bah, moi, je suis plutôt de ton avis, tu vois. Je pense que la question se pose de est-ce qu'on refuse Matignon ou pas. Ça, c'est un débat que j'ai eu avec des potes, d'ailleurs.
Moi, je le dis tout de suite, ça sert à rien de m'appeler. Hein.
Mais je sais pas si c'est une bonne strate s'il a des ambitions élyséennes après, quoi. Je pense pas.
Affaire à suivre. Il nous reste encore 2-3 minutes sur ce sujet. Est-ce qu'on prendrait pas un peu de temps pour parler de notre ministre de l'Éducation et des Sports?
Est-ce que ça suffit 2-3 minutes?
Non, c'est vrai. Allez, en deux mots, les faits les plus marquants de cette histoire qui n'a de cesse de s'alimenter au fil des jours. Moi, j'imagine les confs de presse de Mediapart qui sont en mode « Alors attends, on appuie sur tel bouton. » Non, ils ont un calendrier bien précis de toutes les boules puantes qu'ils vont pouvoir sortir à son égard. Les faits les plus marquants, quand même. Elle prend ses fonctions donc le 12 janvier, le 11 janvier.
Ouais.
Et dès le 12, que se passe-t-il?
Moi, je me dis, mais comment on peut... Juste, moi, le pire, c'était le commencement et ce moment précis.
Ce moment précis, tu peux nous le décrire.
Ouais, dit, il y a prof non remplacé. Donc, en fait, on est ministre de l'Éducation. Et moi, j'ai un principe, c'est donc quand on est ministre de l'Éducation, au moins, ce qu'on veut pour ses enfants, on le veut pour tous les enfants de ce pays. C'est ça, en fait, être ministre de l'Éducation. Et quand je vois ça, en tout cas de mon point de vue, et qu'elle dit ça, et je me dis, OK, en fait, elle est dans une matrice complètement différente où elle dit, les parents vont me comprendre.
Donc là, c'est
là,
quand elle explique...
Parents, mais les parents qui font ce choix-là, il faut qu'ils puissent le faire, de mettre leurs enfants dans le privé, parce que là, il y a aussi plein de parents qui ne peuvent pas.
Là, c'est quand elle essaie de se justifier du fait d'avoir mis un de ses enfants, ou plusieurs de ses enfants, mais en tout cas un en particulier.
Son plus grand, parce qu'elle a fait un petit storytelling.
À l'établissement Stanislas, en disant, ouais, mais vous comprenez, dans le lycée public, à l'école littrée, la prof était toujours absente. Ah, d'accord. Et ensuite, les petits malins de journalistes sont allés voir la prof absente, qui a dit, non, c'est pas vrai. Puis en plus, le gosse, il est resté 6 mois, donc bon. Et là, shitstorm. Évidemment.
Et puis en plus, j'avais lu qu'avant, Attal lui avait dit pourtant de ne pas aller sur le privé, il avait briefé, etc. Elle a voulu faire la ministre, j'allais dire faire la meuf, mais vraiment ça. Elle a voulu, pour le coup, elle a été prévenue. Et c'est comme le lapin de la RATP, quoi. Elle a mis les doigts. Mediapart lui est tombé dessus.
C'est trop marrant, depuis qu'on a cette indiscrétion, Latifa, c'est trop marrant de revoir la séquence avec la tête de Gabriel Attal pendant qu'Amélie Oudéa Castéra parle.
Il
se décompose, il ne comprend pas ce qui se passe.
Sur la photo, la personne était convaincue, là. Il n'y avait pas un gars qui était convaincu par ce qu'elle racontait.
Mais ça, la première fois où j'ai vu la vidéo, je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, je sais pas.
J'avoue. Elle-même, elle est genre, est-ce que je suis vraiment en train de dire ça?
Léa, est-ce qu'on a une minute pour faire sur la loi SRU ou pas du tout?
Carrément, vas-y, allez.
Dans la déclaration de politique générale, je suis très colère, et pas Alexis.
Oui, effectivement, tu voulais en parler.
Et pas Alexis colère, c'est ma référée, je l'aime trop. Ouais.
Vous l'avez ou pas? Attends, il faut que le chat réagisse. Qui l'a dans le public déjà?
Alexis colère, secrétaire général de l'Élysée.
Le mec,
donc je suis colère et pas Alexis.
Ah, mais moi, j'avais Alexis Corbière.
Autre chose, je suis pas Corbière.
Reste avec la droite.
Non, je suis en colère parce que dans sa déclaration de politique générale, Gabriel Attal a annoncé qu'il allait enterrer la loi SRU, qui, contrairement à ce que dit Rachida Dati, ne va pas à l'encontre de la mixité sociale. Donc, pour expliquer, la loi SRU, elle oblige les communes à avoir un quart, 25% de logements sociaux. Comme je dis très souvent, il y a beaucoup de villes qui préfèrent payer des amendes, qui en réalité ne sont pas folles, plutôt que d'accueillir et de prendre leur part de logements sociaux
Les montants après? Je ne les ai pas du tout.
Je ne les ai plus en tête, mais je peux dire que
ce n'est pas prohibitif.
Je peux dire que nous, par exemple, dans le Val d'Oise, on avait fait un rallye avec des maires de gauche, disons les choses. On a fait un rallye des villes que j'appelle les villes délinquantes, en allant rencontrer les maires, en leur disant, mais pourquoi vous ne prenez pas leur part? Et ils te disent clairement, les amendes sont tellement pas ouf qu'en vrai, on préfère les payer et maintenir nos habitants heureux, loin des pauvres. Et donc, qu'a nous annoncé Gabriel Attal, c'est que dans ce calcul-là, des 25%, ils allaient intégrer les logements intermédiaires qui sont souvent occupés par la classe moyenne, ce qui fausse du coup totalement le calcul, ce qui va à l'encontre de la philosophie de la loi au tout début. La Fondation Abbé Pierre s'était battue justement pour cette loi et vent debout. Moi aussi j'utilise des expressions folles aujourd'hui. Et comment, là où en fait il fallait renforcer les sanctions et peut-être augmenter les amendes, donc il y a ce nouveau calcul qui est annoncé par Gabriel Attal pour en réalité maquiller une intention profonde qui est de laisser cette ghettoisation, les pauvres entre eux. Et voilà. Et en vrai, je suis très colère après ça.
Oui, et puis ça va pas du tout favoriser la mixité. Comme
pas du tout. Pas du tout.
Naturellement. Et ça va certainement mettre encore plus de gens dans la merde quand on sait, avec la publication du rapport de la Fondation
Abbé Pierre,
qui souligne qu'il y a quand même 4,3 millions de personnes qui sont au mieux mal logées et que le reste sont des personnes sans domicile ou dans des conditions très précaires.
Comme je réitère, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet, mais on ne lutte toujours pas contre les inégalités scolaires, sociales, avec un uniforme à l'école.
Ça, on est bien d'accord. Uniforme qui sera généralisé, nous a-t-il appris, en 2026. Youpi, you, a priori.
Il y a une vision, du coup. Hein.
Bah oui, du coup, une vision. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Ça donne vraiment envie de faire des enfants, quoi, pour qu'ils se retrouvent sapés comme ceux de Fillon.
Ah ouais, tellement, c'est vrai. Non, oui, parce que c'est vrai qu'on a vu, on a eu la chance d'avoir un petit aperçu de l'uniforme. C'est sympa. C'est vrai que ça donne envie, effectivement. Pour le réarmement démographique, c'est très convaincant. Merci. Autre sujet, quand même, d'actualité assez important, on va pas y échapper, les crises de l'agriculture. Les crises, parce qu'on voit que c'est pas qu'en France, en fait, que les agricultrices bloquent, manifestent, protestent. Il et elle étaient aujourd'hui à Bruxelles alors qu'il y avait un conseil de l'Union européenne, où les chefs d'État se rencontraient. En France, on a une mobilisation qui dure depuis déjà quelques jours, avec des revendications assez spécifiques qui est assez clair, mais qui touche plus globalement à une volonté d'avoir une rémunération plus juste et aussi une levée de tout ce qui est normes contraignantes. On a une réaction politique qui est très, très favorable quand même à ce mouvement. Ce qui est assez étonnant, on va parler peut-être aussi de comment l'exécutif et plus particulièrement la personne de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit que c'était finalement une protestation légitime, digne, et que bah oui, c'est pas tant grave finalement de brûler des bâtiments parce que c'est des revendications qui sont légitimes.
Je le cite alors deux phrases. La semaine dernière, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Et hier, nouvelle citation, je refuse d'envoyer des CRS sur des gens qui travaillent. Alors, le mouvement social contre la réforme des retraites, ben, y avait des travailleurs, c'est le cas de le dire. Le mouvement écolo, on se souvient des mobilisations contre les méga-bassines, il y avait aussi des gens qui bossaient. Les mouvements antiracistes, les mouvements contre les violences policières, il y a aussi des gens qui bossent, des gens qui manifestaient dans les règles de l'art. Et pour autant, ils se sont fait savates, pour pas dire défoncés par des policiers, quoi.
Bon. Ouais, donc un deux poids, deux mesures qui est quand même assez évident, qui saute au visage, encore une super expression. C'est quand même un peu rageant, on peut se le dire. Enfin, moi, ça m'agace de me dire qu'on a, enfin, que ce traitement. Je dis pas qu'il faut aller frapper la gueule des agriculteurs, hein, loin de là, et de leur envoyer les CRS. C'est pas du tout le propos. Hein. Je pense qu'effectivement, la mobilisation est légitime. Que ce sont des métiers qui sont en grande souffrance, notamment du fait de cette vision très capitalistique du métier, etc. Rendement, 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 production, production, production. Des inégalités très fortes aussi au sein même de la profession. Une réforme qui vraisemblablement doit être menée. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous pensez que finalement cette réaction du pouvoir politique est due au fait qu'ils ont peur, en fait, peur des agriculteurs et des agricultrices?
Oui, ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est intéressant d'un point de vue politique, en termes de mobilisation citoyenne aussi à observer. Moi, je regardais ça en me disant, tiens, est-ce qu'il y a des actions duplicables auprès de citoyens, etc. Et en vrai, je pense qu'en France, comme parfois, il y a des privilégiés de la mobilisation. C'est-à-dire que les agriculteurs, les Bretons, avec les bonnets rouges, etc., à l'époque, là, les portiers, en fait, il y a des catégories, historiquement, de catégories de population de travailleurs où le rapport de force il est différent parce qu'il a été construit sur les années de manière différente, etc. Et de la même manière que le gouvernement ne s'adresse pas à tel ou tel syndicat de la même manière, suivant la profession, etc. Et ouais, il a plus ou moins peur politiquement de l'un ou de l'autre, et ça s'explique par plein de facteurs, je pense, socio-historiques aussi. Et là, ouais, on le voit parfaitement. Les agriculteurs, les agriculteurs, ils pourraient tout faire, c'est ça qu'on peut se dire maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il ne faut pas aller parler à des agriculteurs qui ne sont pas convaincus, parce qu'on dit beaucoup plus conservateurs ou de droite ou d'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas les gens à convaincre pour après leur demander de se mobiliser et voilà, mais oui, je pense que c'est aussi Et puis le voir aussi le soutien de la population.
Non, c'est clair.
Ce qu'on peut voir.
Oui, oui, c'est sûr. Et puis il y a quand même. Donc, du coup, il y a des mesures qui ont été annoncées. Là, c'est des mesures en cascade. Hein, et puis ils y vont tous. Hein, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est bien entendu le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. C'est aussi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a dit aujourd'hui non, on va faire respecter la loi Egalim, etc. Donc, quand même des revendications, même sur le plan européen, que le chef d'État lui-même s'est engagé à porter. Il a rencontré aujourd'hui la présidente de la Commission pour parler du sujet. Donc vraiment, Attal a dit qu'il avait appelé aussi. Enfin, les revendications sont vraiment portées, reprises au compte de l'exécutif. Et puis, les réactions aujourd'hui, donc on a effectivement les figures de proue du mouvement qui sont la FNSEA et JA, qui sont donc jeunes agriculteurs, qui ont appelé à débloquer le pays, à trouver, tu parlais de sociologie des mouvements, etc., des mouvements citoyens et des mobilisations, qui ont appelé à une nouvelle forme de mobilisation. Des réactions globalement assez positives, en tout cas, de la part de la FNSEA et de JA. Et puis, la Confédération paysanne qui dit, bon, OK, il y a quelques annonces, effectivement. Néanmoins, moi, j'écoutais leur secrétaire général tout à l'heure qui racontait sur France Info que c'était encore des mesurettes, un manque de vision véritablement systémique, stratégique sur la question d'un métier qui est véritablement en souffrance et que, en plus de ça, ce qu'elle déplorait, c'était le fait que c'était les normes environnementales qu'on avait pris un sacré coup.
Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est la différence entre, par exemple, je prends les jeunes agriculteurs. On a donc le leader qui a annoncé donc qu'il fallait lever les blocages, que voilà, il était plus ou moins satisfait des avancées. Et ensuite, tu as la base, avec des agriculteurs eux-mêmes, avec notamment je sais pas s'ils appellent ça des fédérations, mais par région, en tout cas, où on dit, non, en fait, nous, on veut continuer de maintenir le combat parce qu'on n'y est pas. Et t'en as aussi qui pointent l'hypocrisie de certains, parce qu'on a un soutien un peu unanime des politiques, et t'en as plein qui disent ouais, mais c'est très hypocrite d'avoir soutenu tous les traités de libre-échange tout ce temps et aujourd'hui de dire bah oui, on est de votre côté alors qu'on est un peu en train de payer vos choix du passé, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis, sur la question je voulais revenir quand même sur c'est quoi les agriculteuristes aujourd'hui en France. C'est des centaines de milliers de travailleuses, des centaines de milliers d'exploitations. C'est 49% du territoire français qui est occupé par l'agriculture. C'est 17% de la production européenne en France. C'est la plus grosse production. Donc, c'est quand même un secteur qui est très important pour le pays. Mais un agriculteur, une agricultrice, c'est quoi leur profil sociologique et notamment politique ? Comment tu pourrais éventuellement te décrire ?
Alors, j'ai des petits chiffres que j'ai amenés avec moi. D'abord, oui, ils sont en effet aujourd'hui à peu près 500 000. C'est un nombre qui a énormément réduit. Ça fait autour de 1,5% de la population active. Ouais. Alors après, il faut rappeler que derrière, il y a des retraités de l'agriculture, il y a des conjoints aidants, il y a des salariés agricoles. Donc, en fait, ce n'est pas juste 1,5%, mais de facto, c'est une population qui décline énormément. Avec du coup une concentration aussi des exploitations. C'est une population qui est quand même très masculine. C'est-à-dire que c'est 2,2% des hommes actifs sont agriculteurs et c'est 0,8% des femmes. Donc le différentiel est assez énorme. C'est des gens qui, de facto, sont assez âgés. Là, j'ai trouvé un chiffre d'une de mes anciennes camarades doctorantes qui est devenue maîtresse de conférence à Assas, qui s'appelle Blandine Ménel, et qui rappelait que 50% d'entre eux vont atteindre l'âge de la retraite en 2026.
50%, c'est énorme.
Et c'est des gens qui doivent trouver des remplaçants. Les exploitations, elles sont grandes, les prix sont chers. Et donc, pour devenir aujourd'hui agriculteur, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile. C'est des gens qui, sont aussi des propriétaires. Alors, certains très endettés. Mais ça peut quand même compter, notamment dans l'ancrage à droite. Et en termes de revenus, par contre, il y a une différence qui est absolument monstrueuse.
Ouais, de grosses inégalités,
ouais. Je trouvais des chiffres. Alors, l'ironie, c'est que l'un des grands spécialistes de la question s'appelle François Purseigle.
C'est pas mal.
C'est vraiment écrit comme ça.
Et qui
montrait, par exemple, que les différences de revenus sont énormes. Les 10% qui gagnent le moins, en moyenne, perdent 4 600 euros par an. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un revenu. Enfin, c'est en net, eux, ils ont 4 600 euros en moins dans l'exploitation. Et par contre, les plus gros, eh ben, les 10% les plus gros, ça peut aller loin. Les viticulteurs, on parle de 120 000 euros par an de revenus par personne. Donc en gros, c'est 10 cas par, c'est 10 cas par mois. Donc il y a des différences
qui
sont... c'est pas mal énorme. En revanche, il y a quand même, c'est vrai, 25%, donc un quart qui touche moins que le... Enfin, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, c'est des écarts qui sont énormes. Évidemment, du coup, ça a pesé sur voilà, les revendications des uns et des autres.
Bien sûr.
Et si on regarde un peu les chiffres des syndicats, environ la moitié vote pour la FNSEA ou pour les GIA, qui sont en gros un peu l'agriculture mainstream, conventionnelle, celle qui voilà, est la plus liée avec les grandes centrales d'achat, etc. 20% pour la Confédération paysanne, donc là c'est plutôt la gauche, petite infrastructure. Et puis 22% pour la Coordination rurale, qui est un syndicat qu'on connaissait pas beaucoup, mais qui commence à se faire entendre, qui est plutôt radical, qui est plutôt, on va dire, populiste de droite, très anti-impôt, très anti-norme. Et c'est notamment eux qui ont un peu imposé leur narratif, alors que, et c'est aussi Blandine Menel qui le rappelait dans un live Twitch de France Info, que bah, y a des agriculteurs aussi qui ont envie de porter la transformation environnementale, qui n'ont pas forcément envie d'enlever des normes, mais qui ont besoin d'être accompagnés par l'État. Et ce que tu disais sur le fait qu'ils annoncent des mesures, oui, et en même temps, c'est un peu les plus faciles, quoi. Supprimer une norme, supprimer un arrêté préfectoral, c'est le plus facile. Ça correspond à un récit sur la situation agricole qui est quand même un peu sui de la droite ou de l'extrême droite, pour lequel les vrais agriculteurs ont une petite préférence, mais aussi pour Macron. Et c'est le truc qui coûte pas cher, quoi.
Ouais,
la vraie situation, elle est hyper complexe, quoi. Et ça se règle pas en deux jours.
Oui, ben justement, peut-être pour finir sur ce thème, avant de recevoir notre invité pour la prochaine séquence, Latifa, est-ce que tu penses que la situation va se calmer? Est-ce que la mobilisation est de nature à s'essouffler, ou est-ce que tu penses que, parce que là on voyait qu'il y a un appel au déblocage, pour autant il y en a qui continuent à bloquer, est-ce que tu penses que finalement les annonces en cascade du gouvernement sont de nature à répondre aux inquiétudes et aux attentes de celles et ceux qui ont bloqué les routes ces derniers temps?
Ouais, je crois, vu que là, il y a des appels au déblocage, il y a un convoi qui a rebroussé chemin vers le sud-ouest alors qu'il était en route vers Rungis.
Ouais.
Donc oui, je pense que là, pour le coup, il y a les principaux syndicats qui appelaient à la mobilisation et au blocage reculent, et apparemment les annonces entre guillemets suffisent pour eux, en tout cas au point de débloquer. Après, je pense que ça donne lieu aussi ensuite à des discussions, parce qu'il y a beaucoup de mobilisations sur les traités de libre-échange qui vont être discutées notamment au niveau européen, ou même avec l'Amérique latine et le Mercosur, etc. Donc je pense qu'après, il y a tout un travail pour les agriculteurs.
Oui, c'est pas un travail qui se fait en trois jours, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'ils, voilà, au moins, ils ont montré une nouvelle fois de quoi ils étaient capables.
Ouais.
Et après, à voir comment les discussions se passent. Et voilà.
Et puis c'est des gens qui aussi doivent, pardon, juste bosser,
dans
leur ferme, les animaux sont tout seuls, donc c'est des gens pour qui la mobilisation est forcément un peu ponctuelle.
Ouais, c'est clair.
Je veux juste qu'on mentionne quelque chose. Tout à l'heure, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a annoncé que le plan Ecophyto qui visait à réduire les pesticides était mis en pause pour le moment. On sait le nombre de cancers que ça générait, notamment chez les agriculteurs et agricultrices. Donc on le tiendra pour responsable à l'avenir, parce que cette décision, je pense, est lourde de sens. Et ensuite, c'est Libération qui titrait ce matin, et si on réglait cette question-là par l'écologie? Et oui, en fait, je pense qu'en fait, c'est la lutte des agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dans leur travail, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi bien manger. C'est aussi la lutte du bien manger et de comment bien manger. J'ai quelques chiffres là sur les industriels de l'agroalimentaire, parce que en réalité, c'est aussi eux qu'il faut viser. La hausse des prix de l'alimentation, là, depuis 2 ans, c'est 21%. Et de combien les prix payés aux agriculteurs ont augmenté? Ils n'ont pas augmenté, ils ont baissé de 10%. Ça en dit long, ce qui fait, et on a une augmentation des marges des industriels d'agroalimentaire de 71%. Ça devrait nous faire réfléchir. La question, elle se pose là. Peut-être qu'en fait, on doit juste réinventer le modèle, et que c'est peut-être le moment. Merci aux agriculteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites que l'écologie n'est pas la solution à votre problème, mais peut-être que c'est le moment, en réalité, d'y réfléchir tous ensemble. Et avec consommateurs, industriels, je ne sais pas, mais et producteurs, on puisse réfléchir à ce nouveau modèle.
Oui, bien sûr. Et puis là, en l'occurrence, les annonces qui ont été faites par le gouvernement sont de nature à répondre aux principales revendications, encore une fois, de la FNSEA et de GIA, mais pas forcément des autres agriculteurs et agricultrices qui pour le moment, sont assez unis dans la mobilisation. Mais est-ce que ça peut aussi marquer un tournant dans la mobilisation ? C'est ce que disait la secrétaire générale de la Confédération paysanne, Véronique Marchessault, qui disait que oui, pour le moment, ils étaient effectivement unis. Et est-ce que finalement, répondre à certaines revendications de la FNSEA et de JA de la part du gouvernement n'était pas dans une certaine mesure une façon de diviser le mouvement ?
Ah oui, peut-être, j'avais pas pensé à ça, parce que de toute façon, on est traversé par plein d'inégalités comme plein de milieux, mais de se dire, notamment avec la PAC dont on parle beaucoup, mais je crois que de mémoire, 80% des aides bénéficient à un quart des agriculteurs.
Oui, les plus grosses exploitations.
Quelque chose comme ça, voire moins, 14% ou quelque chose comme ça. Donc forcément, il y a de ça, et ça rejoint, enfin, ce que dit Malek, qu'est-ce que tu disais aussi, ce dont on parle au début, c'est que, jusqu'à quand, en fait, ça va être ce modèle. Genre, les agriculteurs qui vont gueuler, on décide de se faire un plan à 400 millions, là, c'est le chiffre, plus, des décisions qui ont des conséquences sur le plan de la santé et sur le plan de l'écologie. Mmh. Et quand est-ce qu'on développe une vraie vision de l'agriculture, de l'écologie différente, de l'alimentation. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, c'est encore un domaine
C'est clairement pas un dossier qui est fermé, quoi.
Ouais, pas du tout. Parce que tant qu'on n'y aura pas réfléchi clairement et qu'il n'y aura pas de vraies solutions trouvées pour essayer de contenter tout le monde, en fait, ça va revenir. Et peut-être même de manière encore plus violente à chaque fois.
Et c'est peut-être un risque d'ailleurs, parce que le diviser, ça peut être bien pour avoir l'impression de casser un peu l'opposition, mais le risque, et les syndicats le savent, c'est qu'il y a un débordement.
Ouais.
Parce que, certes, il y a 50% à peu près de votes lors des élections, et donc, c'est beaucoup plus que dans la population, mais à un moment donné, ils n'obéissent pas toujours, et des fois, ça peut aller très loin, quoi.